Amis auditeurs, bonjour et merci d'être avec nous en ce dimanche matin pour la causerie catholique. Et ce matin, nous retrouvons le père Gérard Berlier, qui était déjà venu à ce micro il y a quelques semaines. Il était de passage parmi nous au mois d'août, mais il a bien voulu nous laisser un témoignage, son approche de l'exhortation apostolique du pape François, qui s'appelle « La joie de l'amour ». Père Berlier, bonjour.
Bonjour.
Alors donc, cette exhortation apostolique a été très très bien accueillie dans tous les milieux, discutée et aussi méditée. Alors vous allez nous aider aujourd'hui à en voir les points principaux. Par où pensez-vous commencer ?
Je veux bien commencer par le chapitre 2, titré « La réalité et les défis de la famille ». Il faut savoir que ce chapitre est comme un écho du premier synode extraordinaire, où toute la première semaine avait été consacrée à un état des lieux de la famille à travers le monde, en particulier un état des lieux des défis, des questions tout de même un peu difficiles auxquelles la famille fait face. Je peux dire certains éléments de mémoire. Alors, ça n'est apparu que petit à petit dans les discussions, c'est-à-dire que les évêques prenaient la parole chacun à son tour, droit à 4 minutes, si ma mémoire est bonne, c'est pas beaucoup. Et c'était strict, au bout de 4 minutes, on coupait la sono. L'ordre de prise de parole suivait le document préparatoire ou un document qui avait fait la synthèse du document préparatoire. Donc on suivait un sujet plus qu'un tour du monde. Mais petit à petit, c'est dessiné le tour du monde au fur et à mesure des prises de parole, même si c'était dans le désordre. Alors, je garde en mémoire, premier, le Moyen-Orient. Mais deux autres choses pour les chrétiens du Moyen-Orient sont apparues. Une question, alors c'est des questions un petit peu spécialisées qui sont relatives au droit des églises. Les chrétiens de rite occidental, les catholiques, ne sont pas nécessairement de rite occidental, mais ils en réfèrent à Rome. Donc ils dépendent du droit romain, même si c'est pour les églises orientales. Mais ce droit n'est pas le même que celui des églises orthodoxes. Et par exemple, en matière familiale, un homme séparé de son épouse et a obtenu une reconnaissance de nullité de son mariage dans l'église orthodoxe, à nos yeux, peut-être ça ne va pas valoir, parce que les chefs de nullité ne sont pas les mêmes dans l'orthodoxie et en droit romain. Et donc ça met des personnes dans des situations inextricables où dans leur église elles ont le droit de se remarier, puis chez nous ça colle pas, ou réciproquement, chez nous ils auraient le droit de se remarier, puis ils arrivent chez les orthodoxes, c'est pas le même chef de nullité, et donc les évêques réclament qu'il y a un travail de juriste qui se fasse pour qu'on n'ait plus des situations où des personnes soient dans une impasse à cause de ça. Deuxième problème, c'était les mariages interreligieux entre chrétiens de rite catholique, d'appartenance catholique, plus exactement, en fait, précis, et des musulmans. Parce que, bien sûr, il y a des mariages interreligieux, étant donné le tout petit nombre de chrétiens d'appartenance catholique. Et là, j'ai compris que la question était plutôt une question patrimoniale. C'est-à-dire que quand un conjoint catholique meurt, en droit musulman, les biens reviennent à la partie musulmane. Et c'est à peu près automatique. Ce qui fait que des familles chrétiennes se trouvent dépouillées de leurs biens, qui est quand même une grosse préoccupation dans des pays où les gens n'ont pas des fortunes colossales. Après, il y a des choses qui se sont dessinées pour l'Amérique du Sud et l'Asie. Il y a quelque chose de commun dans ces deux continents. C'est la très grande pauvreté des couples et souvent un départ à l'étranger de l'un des conjoints. En Amérique du Sud, par exemple, un homme va partir travailler au Mexique, aux États-Unis. Si on est aux Philippines, il va partir dans les Émirats ou quelque chose comme ça. Et l'épouse reste à la maison. Ou réciproquement, c'est parfois la femme qui part et l'époux qui reste à la maison. Ça fragilise considérablement les couples, évidemment. Ça provoque des infidélités conjugales. Alors, en plus, il y a les problèmes de garde des enfants. Si c'est la femme qui part, l'homme reste seul à la maison, donc il va s'entendre avec une femme pour la garde des enfants, parce que c'est plus facile, et donc ça provoque des séparations de fait ou des changements de conjoints de fait. Ça fragilise énormément les familles pour des causes économiques, tout simplement. Ce qui fait comprendre pourquoi le pape François demande beaucoup de compréhension dans le regard porté sur les recompositions familiales. Parce qu'il vient d'un continent où c'est beaucoup lié à la pauvreté, voire à la misère. Et donc, il faut intégrer ce regard-là. Quand la recomposition est venue parfaite de pauvreté ou de misère, de travail au loin d'un des conjoints, on ne peut pas juger pour des gens qui sont dans des pays d'opulence. Ce n'est pas pareil. Un autre aspect, alors qui regarde surtout l'Amérique du Sud, là, j'ai compris que dans certains pays, la régulation des naissances, ça passe tout simplement par la stérilisation masculine, qui a évidemment des répercussions psychiques assez graves, qui elle aussi déstructure beaucoup. En Afrique, alors là c'est assez différent. Bien sûr a été évoqué le problème de la polygamie, qui est une question qui est toujours portée par les évêques. La deuxième chose qui est sortie, c'est le comment intégrer le sacrement de mariage quelque part dans la célébration du mariage coutumier. Le mariage coutumier est extrêmement important en Afrique. Il a valeur de droit. Il faut absolument le respecter. Les gens ne se marient pas à l'église parce qu'ils n'ont plus d'argent. Et ça donne des personnes qui n'ont pas accès au sacrement pendant des années et qui sont validement mariées aux yeux de leur culture. Et donc la question, c'est comment peut-on, à un moment donné du mariage coutumier, intégrer le sacrement de mariage en respectant la forme canonique, mais quel est l'endroit où ça va être le plus proche, par exemple, dans une culture? Et ça, les réponses ne sont encore pas données. Quatrième chose, en Afrique, les organismes de financement exigent des gouvernements africains des contreparties pour donner de l'argent. Et ces contreparties, c'est, écoutez, vous allez intégrer dans votre législation le droit à l'avortement, la régulation des naissances par des méthodes auxquelles on va vous faire réfléchir. Vous allez aussi, vos pays pénalisent encore l'homosexualité. Ça, il faudrait que ça disparaisse de votre droit. Sinon, on n'aurait pas de sous. Et les pressions sont extrêmement fortes sur les gouvernants. Ils cèdent. Et à une semaine d'écart, ils peuvent avoir rencontré un évêque qui dit « Mais écoute, c'est pas possible de faire ça, c'est pas la culture africaine. » Mais il dit « Je sais, c'est pas la culture africaine, on va pas le faire, c'est pas possible. » Et quelques jours après, c'est signé. Donc c'est des choses tout de même relativement graves. Hein. Et puis, alors ça c'est pour l'Afrique. Et moi j'avoue que ça m'a donné honte pour nos pays. Hein. Et puis après l'USA, l'Europe, alors là c'est ce qu'on connaît très très bien. L'USA, l'Europe, précisément des dérives du système législatif dans lesquelles on intègre le respect de l'évolution culturelle et qui est une évolution, qui est une espèce de dérive par rapport à toutes les valeurs judéo-chrétiennes. On intègre dans le droit l'évolution des mœurs. Donc on intègre l'homosexualité, avec ce qu'on a connu en France, le mariage pour tous, là, ce qui est en fait la reconnaissance d'une forme d'union, mais qu'on appelle mariage pour les homosexuels. Et puis, il va y avoir bien sûr tout ce qui touche à la procréation médicale assistée, pour le moment chez nous, dans nos pays, enfin en France. Mais on sent bien qu'il y aura des pressions pour intégrer, pour ce qui touche à la filiation, la gestation pour autrui. Avec déjà des scandales qui ont éclaté, notamment au Québec, les problèmes que font jaillir ces évolutions législatives, puis l'évolution des pratiques, qui sont, tant qu'on n'a pas légiféré pour les situer, mais on tend à légiférer pour les intégrer, hein, ce qui est un peu marché sur les mains. Hein, et parce que la loi l'éduque, et plus on intègre une évolution des mœurs qui est en fait quelque chose qui est un peu triste, enfin qui a des répercussions par rapport aux enfants notamment, hein, par rapport aux enfants à naître, et puis pour une société tout entière. Enfin, ça fragilise énormément les familles. Hein. Si on intègre systématiquement dans la loi des aspects qui fragilisent les familles, très très difficile. Hein.
Oui, Père Berlier, malheureusement, le temps qui nous est imparti est écoulé.
Ah.
Je suis désolée, mais c'était tout à fait passionnant. Donc, nous allons essayer d'intégrer tout cela dans notre petit moment de rencontre avec nos auditeurs. De toute façon, nous allons vous retrouver très vite pour un autre chapitre de cette exhortation apostolique. Merci d'avoir été avec nous et merci à vous, amis auditeurs. Rendez-vous dimanche prochain.